Laudetur Jesus Christus.
De nouvelles frappes au cœur de Téhéran et des missiles iraniens en territoire israélien. Ce vendredi marque le 8e jour de guerre israélo-iranienne. Malgré le bruit des armes, certains encore plaident pour la diplomatie. C'est le cas des pays européens. Une réunion a lieu à Genève aujourd'hui en présence du ministre iranien des Affaires étrangères. Plus de 2 millions de personnes ont pu regagner leur foyer en Syrie depuis la chute au mois de décembre dernier de Bachar al-Assad. Une nouvelle qui réjouit le HCR, même si les défis restent nombreux. Nous retrouverons notre correspondant à Damas. Dans ce journal également, le réchauffement des relations entre l'Arménie et la Turquie. Le Premier ministre Pachinian est reçu par Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui. Nous évoquerons aussi la guerre en Ukraine avec l'évêque catholique de Kharkiv. Et puis dans notre dossier ce matin, rendez-vous au Canada pour parler du peuple Innu et d'un prêtre missionnaire qui les accompagne depuis des années. Le Canada où sera célébrée demain la journée nationale des peuples autochtones.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, les tirs de missiles se poursuivent entre l'Iran et Israël au 8e jour de cette guerre ouverte. Les sirènes ont de nouveau retenti ce matin sur le territoire israélien. Un immeuble d'habitation a été touché par un missile iranien dans le sud du pays. La ville de Beersheva, où un hôpital avait été visé, a de nouveau été prise pour cible. Tsahal a de son côté annoncé avoir frappé des dizaines de cibles à Téhéran, parmi lesquelles un centre de recherche militaire dans la capitale iranienne. Malgré cette guerre, certains s'accrochent à une solution diplomatique au conflit. En témoigne Alexandra Sirgan, cette réunion à Genève aujourd'hui où le ministre iranien des Affaires étrangères doit rencontrer ses homologues européens.
Oui, Olivier, précisément les ministres allemands, français et britanniques. La réunion se tiendra dans les locaux de la mission permanente de l'Allemagne à Genève en présence de la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, Kaya Kallas. Ces représentants européens n'ont pas été choisis au hasard. Leurs pays ont tous trois été signés de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, torpillé par Donald Trump lors de son premier mandat. Aujourd'hui, le stock d'uranium enrichi de l'Iran est 20 fois supérieur à la limite convenue. C'est d'ailleurs l'un des enjeux de la rencontre d'aujourd'hui, obtenir de la part des autorités iraniennes des garanties quant à la nature exclusivement civile de leur programme nucléaire, seul moyen d'empêcher une nouvelle escalade du conflit. Une branche semble toutefois avoir été ouverte. Hier soir, dans un communiqué, le ministre britannique des Affaires étrangères a affirmé qu'une fenêtre exister dans les deux prochaines semaines pour parvenir à une solution diplomatique avec Téhéran. Deux semaines, c'est l'échéance également donnée hier par Donald Trump avant de trancher sur la participation des États-Unis au conflit.
Merci beaucoup Alexandra Sirgan. Et interrogée sur cette guerre par la RAI, la télévision publique italienne, Léon XIV renouvelle son appel à la paix pour éviter à tout prix le recours aux armes et plaide justement pour le dialogue par des moyens diplomatiques. Mercredi, à l'issue de l'audience générale, le pape exhortait les responsables politiques pour qu'ils ne succombent pas à la tentation de l'emploi d'armes surpuissantes et destructrices. Ce conflit ouvert à Iran-Israël ne doit pas faire oublier la situation dans la bande de Gaza où les sites de distribution d'aide alimentaire par la très mal nommée Fondation humanitaire pour Gaza sont devenus de véritables zones de mort pour les civils palestiniens. Ce matin, au moins 34 personnes ont été tuées par des tirs israéliens, dont 23 sur un site de distribution. Bilan provisoire, le tout alors que le blocus imposé par Israël sur l'aide internationale reste total. Ce vendredi, je vous en parlais en titre, marque la journée mondiale des réfugiés. Fin 2024, ils étaient plus de 42 millions, forcés de quitter leur foyer en raison de la guerre, des persécutions ou de graves violations des droits de l'homme. Parmi les situations les plus critiques, l'afflux de réfugiés soudanais au Tchad qui ne cesse de s'aggraver. Mais malgré un tableau parfois sombre, il y a des nouvelles plus positives. Ainsi, en Syrie, plus de 2 millions de personnes ont pu rentrer chez elles depuis la chute en décembre dernier de Bachar al-Assad. Le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi, s'en est d'ailleurs félicité malgré les nombreux défis qui restent dans une Syrie en pleine reconstruction. À Damas, la correspondance de Mohamed Erami.
Mieux vaut vivre dans les gravats que rester étranger ailleurs, confie Fares, un Syrien revenu de 13 ans d'exil en Jordanie. Sa voix résonne parmi des milliers d'autres qui choisissent de rentrer depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier. En Jordanie, le ministre de l'Intérieur, Mazen El-Faraya, affirme que 34 690 Syriens, dont plus de 4 800 issus des camps, ont déjà traversé la frontière vers la Syrie de façon volontaire. Au camp de Za'atari, le plus grand camp de réfugiés syriens en Jordanie, autrefois refuge pour près de 80 000 personnes, les allées se vident peu à peu. Sur place, l'ONU confirme que près de 500 000 réfugiés et près de 2 millions de déplacés internes sont revenus depuis décembre. Beaucoup redécouvrent leur foyer. ou ce qu'il en reste. Maisons en ruine, services publics absents, routes détruites. Malgré les défis, pauvreté, infrastructures détruites, ces milliers de retours traduisent une réalité, l'espoir de reconstruire un pays déchiré, avec le soutien attendu du Golfe, de l'Occident et des organismes internationaux pour financer une reconstruction estimée à près de 400 milliards de dollars. Mohamed Erami, Damas, pour Radio Vatican.
Une visite symbolique et importante en Turquie aujourd'hui, celle du Premier ministre arménien Nikol Pachinian à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts des deux pays voisins pour renouer enfin des relations diplomatiques. Les deux dirigeants devront faire le point sur ces efforts, mais discuteront aussi de dossiers régionaux, à commencer par les répercussions possibles du conflit en cours entre l'Iran et Israël. À Ankara, les précisions d'Anne Andlauer.
À Ankara comme à Erevan, on décrit la visite du Premier ministre arménien comme historique. Nikol Pachinian s'était déjà rendu en Turquie en juin 2023 pour l'investiture de Recep Tayyip Erdogan. Mais c'est la première visite officielle d'un Premier ministre arménien chez le voisin turc, alors même que les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques et que leur frontière commune est fermée depuis 1993. Cette visite est le signe que le processus dit de normalisation entre Ankara et Erevan, entamé début 2022, reste d'actualité. Ce processus n'a eu pour l'instant que peu d'effets concrets, en dépit des concessions de Nikol Pachinian qui a mis de côté la question d'une reconnaissance par Ankara du génocide des Arméniens de 1915. Ce qui bloque, c'est que la Turquie veut attendre la signature d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour normaliser les relations. La Turquie, très proche de l'Azerbaïdjan, a d'ailleurs accueilli son président Ilham Aliyev jeudi, un jour avant le Premier ministre arménien. Tayyip Erdogan et Nikol Pachinian discuteront aussi du conflit en cours entre Israël et l'Iran. Les deux pays ont une frontière avec l'Iran et craignent tous deux les effets déstabilisateurs du conflit. Une crise régionale qui encourage à la poursuite du processus de normalisation entre Ankara et Erevan. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
De nouvelles grandes manœuvres non loin de Taïwan. Les autorités de l'île ont décompté ce matin le passage de 74 avions chinois, mais également de 6 navires. Pékin considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire. Hier, c'est un navire britannique que l'on a vu dans les eaux du détroit de Taïwan. Une première depuis 2010. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a nommé un nouveau chef à la tête des forces terrestres de son armée, le général Ennadi Chapovalov. Son prédécesseur a démissionné le 1er juin dernier après une frappe russe qui avait tué 12 soldats sur un terrain d'entraînement. L'Ukraine, où les cimetières s'agrandissent avec de plus en plus de drapeaux ukrainiens qui pointent vers les tombes des soldats tombés au combat. C'est ce que rappelle l'évêque catholique du diocèse de Kharkiv-Zaporijja, Mgr Pavlo Ontcharouk, qui témoigne d'une grande souffrance qui semble ne pas avoir de fin. L'église ukrainienne qui continue d'apporter malgré tout son soutien avec ses prêtres et qui ont également besoin d'être soutenus, Augustine Asta.
Oui, Olivier, depuis le début de l'invasion russe, la mission de l'église ukrainienne ne fléchit pas. Dans le diocèse de Kharkiv-Zaporijja, les prêtres assurent leur service comme toujours, même si le nombre de paroisses a diminué en raison des destructions, comme le rapporte Mgr Pavlo Ontcharouk. Il continue de soutenir les victimes, de célébrer des messes ou encore de visiter les malades. Mais parfois épuisés, ils subissent personnellement des coups durs et n'ont pas toujours quelqu'un avec qui en parler, confie l'évêque ukrainien qui se donne pour mission, Olivier, de prendre soin de ses prêtres, de prier avec eux, mais aussi de porter un regard sur les soldats qui se confient aux prêtres, car outre la fatigue physique et la douleur de la perte de leurs compagnons d'armes, affirme Mgr Ontcharouk, il porte un autre lourd fardeau, une âme blessée par le fait d'avoir été contraint de prendre les armes, a déclaré l'évêque de Kharkiv. Ou Olivier, sur les 2,5 millions de personnes qui y vivaient avant la Grande Guerre, il en reste aujourd'hui environ 500 000 selon les données présentées par le maire de la ville.
Merci beaucoup Augustine. Et plus de détails sur le témoignage de cet évêque de Kharkiv à retrouver sur vaticannews.va. L'Ukraine et la Russie qui ont annoncé hier un nouvel échange de prisonniers. C'est le seul fruit des discussions qui ont lieu au début du mois à Istanbul. Avant de passer à notre dossier, ce mot de Côte d'Ivoire où à l'approche des élections présidentielles du 25 octobre, les deux principaux partis d'opposition ont officialisé hier un front commun. Parmi eux, la formation de l'ancien président Laurent Gbagbo. Cette nouvelle formation appelle le gouvernement ivoirien à ouvrir un dialogue politique et à réformer la commission électorale indépendante, la CENI, l'organe chargé d'organiser les élections. Alassane Ouattara, président depuis 2011, pourrait être investi ce week-end par son parti pour briguer un quatrième mandat. Au Canada, la Journée nationale des peuples autochtones sera célébrée ce samedi comme chaque 21 juin. C'est l'occasion de rappeler, de reconnaître la culture, le patrimoine et la contribution des Premières Nations, des Inuits ou encore des Métis. Ces communautés, selon la déclaration de l'ONU pour les peuples autochtones, ont subi des injustices historiques liées entre autres à la colonisation et à la dépossession de leurs terres. Parmi elles, le peuple Innu qui compte plus de 16 000 membres et qui vit depuis des millénaires au Labrador et dans le nord-ouest du Québec. Dans cette communauté, des prêtres missionnaires Oblats de Marie Immaculée témoignent de blessures profondes, comme le père Gérard Tsatelam. Il accompagne la communauté Innu au Québec, l'une des nombreuses communautés autochtones du pays. C'est un sujet préparé ce matin par Myriam Sandounou.
Depuis maintenant 13 ans, le père Gérard Tsatelam accompagne la communauté autochtone Innu du Québec à l'est du Canada. Originaire du Cameroun, ce missionnaire des Oblats de Marie Immaculée est arrivé sur le territoire depuis 2012. Il parle parfaitement la langue Innu. Après cette conversation téléphonique avec l'un de ses fidèles, le père Gérard explique combien il est important de s'exprimer dans cette langue parlée depuis des millénaires.
Moi, je célèbre en Innu parce que moi, ça fait déjà 13 ans que je suis là, donc je l'ai appris. Parfois, je me dis qu'on n'a pas le choix que d'apprendre parce que avec les aînés ne parlent que l'Innu. Donc, si on veut être en contact avec eux, c'est mon lieu de travail, c'est mon lieu de vie, c'est mon lieu de mission.
Attaché à cette communauté autochtone, le missionnaire camerounais partage la souffrance encore profonde de ce peuple liée à son passé, à la question des abus pour lesquels le pape François avait demandé pardon aux peuples autochtones lors de son voyage apostolique effectué en 2022. Cette année-là, le pape François s'était excusé pour la manière dont, malheureusement, de nombreux chrétiens ont soutenu la mentalité colonisatrice des puissances qui les ont opprimés.
Les gens souffrent beaucoup, il y a beaucoup de souffrances ici, là, des blessures dues aux abus de l'Église catholique. Ben, cette blessure-là, c'est sûr que c'est les premières victimes sont ce qu'on appelle les survivants des pensionnats. Quand c'est sorti cette affaire de Kamloops, les tombes anonymes des enfants disparus des pensionnats, c'était comme le sommet de, on ne savait plus comment gérer cette tragédie-là. Et le pape, il a bien fait de venir, vraiment très bien fait. Il fallait qu'il vienne. Sinon, là, on était tous par terre. La souffrance subie par la colonisation, les abus dus aux écoles résidentielles, aux pensionnats et aux autres drames qui ont pu se produire. On veut que ça soit derrière nous.
Les attentes des Innu sont nombreuses. Pour le père Gérard, l'élection du pape Léon XIV reste un signe d'espérance.
Pour nous, je me dis, c'est sûr que c'est l'action de l'Esprit-Saint qui soit devenu pape. C'est vraiment très, très beau pour nos églises ici, des communautés autochtones. Le pape vient des États-Unis, donc il est vraiment en première ligne face à ces problèmes-là que vivent la question autochtone dans le monde. Parce que lui vient des États-Unis, donc il est certainement au courant de ça. Et il a vécu au Pérou, il a connu les autochtones. Donc pour nous, c'est une bénédiction de l'avoir comme pape. Donc il va vraiment aider. Une seule chose des peuples autochtones, c'est le respect. Aider pour le respect et aussi pour la reconnaissance de leur culture, de leurs valeurs, de leur spiritualité. Cesser d'être exploité, d'être dominé, d'être colonisé. Mettre fin à ça, là. Et être considéré égal à égal, c'est-à-dire on est tous sur la même ligne, nous sommes tous des citoyens qui méritent d'être respectés sur leur territoire, méritent d'être reconnus dans leur vie, dans ce qu'ils font.
Convaincus que l'espérance ne déçoit pas, les prêtres missionnaires qui exercent leur ministère auprès des Innu espèrent de tout cœur, malgré les difficultés qu'ils rencontrent parfois, pouvoir continuer à prêter une oreille attentive dans cette communauté dont le patrimoine ancestral a résisté à l'épreuve du temps et de l'histoire et forme de nos jours le socle identitaire de l'une des plus grandes nations autochtones du Québec.
Voilà, interrogé par Myriam Sandounou, le père Gérard Tsatsela, missionnaire Oblat de Marie qui accompagne la communauté Innu du Québec, était l'invité de notre dossier sur Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition. Ce sera bien entendu à 13h en direct de Rome. N'oubliez pas d'ici là nos informations sur vaticannews.va et sur les réseaux sociaux. Excellente journée.